Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Cela faisait 20 ans qu'elle n'avait pas publié de roman. Après le succès planétaire de son premier livre, Le Dieu des Petits Riens, récompensé par le Booker Prize en 1997, l'auteur et militante indienne Arundhati Roy s'était consacrée à des essais. Aujourd'hui, elle revient à la fiction avec Le Ministère du Bonheur Suprême, une plongée dans New Delhi où se côtoient une foule de personnages dont une transsexuelle et une combattante du Cachemire. Labyrinthique, sociopolitique, utopique, ce roman tentaculaire propose mille et une lectures. De passage à Paris, Arundhati Roy est notre invitée maintenant. Bonjour Arundhati Roy.
Bonjour.
Le ministère du Bonheur Suprême désigne un cimetière où vit une communauté fondée par Amjoun, qui est Hijra, soit une transsexuelle. Et dans cet endroit se réfugient des individus abîmés, rejetés, rebelles, mais qui ensemble retrouvent une dignité, une force. Et de fait, votre roman souffle une formidable énergie qui montre qu'on peut faire bouger les lignes, que les frontières instaurées par un État, une religion, une société n'empêchent pas la vie de se faufiler entre ces murs. Est-ce que c'était aussi l'un de vos projets avec ce livre, raconter l'incroyable vitalité qui existe malgré tout le malheur?
Well, you know, the thing is when I write fiction,
en fait, quand j'écris de la fiction,
sometimes a point.
Il n'y a pas toujours un objectif. Il s'agit plutôt d'essayer de créer un univers. Et en créant un univers, le prisme, l'objectif à travers lequel un écrivain regarde le monde se dévoile. Mais oui, d'une certaine façon, c'est un livre qui aborde le potentiel qu'il y a quand on est brisé et qu'on parvient à se réparer de façon extrêmement fragile. En Inde aussi, les cimetières sont assez différents de l'Occident. Ici, on a tendance à associer les cimetières à la mort. Alors que là-bas, en particulier maintenant, avec la montée du nationalisme hindou, qui est une force fasciste extrêmement violente, qui est d'ailleurs fière de se revendiquer comme fasciste, et de parler de son admiration pour Hitler, etc. Les cimetières appartiennent en réalité aux minorités, aux musulmans, aux chrétiens, puisque les hindous n'ont pas de cimetière. Et donc ça devient des sortes de ghettos où des communautés sont repoussées, où il y a la pauvreté, ce type de nationalisme violent depuis des années a conduit des gens à vivre dans ces cimetières. Ce sont des lieux de vie, pas juste des lieux de mort.
Parlons en effet de Amjoun qui ouvre ce roman polyphonique. C'est une hijra, donc elle est née garçon, mais c'est une âme sacrée qui s'est trompée de corps, elle se sent femme, donc elle rejoint une communauté de femmes. Et je me demandais pourquoi vous aviez choisi cette personne qui incarne le troisième sexe, comme on peut dire la troisième voie, d'une certaine façon, ni noir ni blanc. Est-ce qu'elle représentait pour vous, est-ce qu'elle représentait pour l'Inde?
That question is also
pour moi, cette question, parfois elle est aussi douloureuse.
She's a person like everybody else.
Parce qu'elle est une personne comme tous les autres. Personne ne me demande pourquoi j'ai choisi d'écrire sur Garson Hobart, cet agent des services de renseignement, ou sur Moussa, le Cachemiri. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas la considérer uniquement comme Hijra. C'est aussi une chiite, une musulmane née dans la vieille ville de Delhi. Et en fait, dans son histoire,
The most terrible thing that happens to her,
ce qui lui arrive de plus terrible quand elle se retrouve prise dans le massacre de 2002 au Gujarat, sous la responsabilité d'ailleurs de notre premier ministre actuel. Elle est prise dans ce massacre, non parce qu'elle est hijra, mais parce qu'elle est musulmane. Et en fait, elle y échappe parce qu'elle est hijra. Et les gens pensent que ça porte malheur de tuer les hijra. À un moment, en fait, nos identités sont un peu comme un jeu de cartes. On peut les rebattre et on ne sait jamais quelle partie va vous sauver, quelle partie va vous rendre vulnérable. Probablement aujourd'hui, c'est plus dangereux d'être musulman en Inde que d'être hijra, bien que cette communauté ait subi de grandes violences au fil des siècles.
Je réagis à ce que vous venez de dire sur le fait que ça peut être douloureux quand on vous demande pourquoi vous avez choisi une hijra. Mais néanmoins, vous ne le faites pas par hasard. Donc c'est bien qu'elle symbolise quelque chose pour vous, qu'elle incarne quelque chose.
She's not a symbol of anything. Any more than any of the other characters are symbols.
Pas un symbole de quoi
anything,
que ce soit.
You know?
Aucun des personnages d'ailleurs n'est symbole de quoi que ce soit.
To me, the idea, like all the characters in
Mais
the
pour
book,
moi, tous les personnages
in some ways
du livre
have this very incendiary border running through
ont
them,
une frontière
right?
extrêmement
so Anjum,
brutale qui les traverse.
She has the border of gender running through her.
Anjum, c'est la frontière du genre.
Major character who calls himself
Un autre
Saddam
personnage
Hussein.
Important qui se donne à lui-même le nom de Saddam Hussein.
He is a Dalit.
C'est un Dalit connu auparavant sous le nom de Intouchable qui s'est converti à l'islam pour échapper au système de caste. Beaucoup de Dalits ont fait ça d'ailleurs dans l'histoire. Et lui a cette frontière de la conversion religieuse qui le traverse. C'est une frontière extrêmement dangereuse aujourd'hui en Inde. D'une certaine façon, l'idée c'est d'essayer de regarder une société comme celle de l'Inde. Les Occidentaux la considèrent comme anarchique, mais en fait, elle ne l'est pas du tout. C'est une société qui est organisée sur une grille hiérarchique extrêmement précise. Il n'y a que 5% de la population qui se marie en dehors de leur caste. Et c'est à travers cette grille, en fait, c'est en représentant des personnages en dehors de cette grille qu'on la met en lumière.
Parlons de ces nouveaux protagonistes qui, en effet, arrivent au chapitre 6. Ils sont quatre, mais c'est essentiellement un trio. Tilo, une femme, Moussa et Naga, deux hommes. Et leur histoire nous plonge dans la situation tragique du Cachemire. Cette région indienne qui est convoitée par plusieurs pays et où les actes de violence sont très nombreux. Et l'expérience de vos personnages nous montre la complexité géopolitique de cette vallée. Bien sûr, vous écrivez un roman Arundhati Roy, mais je pense que si ces personnages sont aussi attachants, c'est parce que vous les avez rencontrés, ces combattants et ces combattantes au Cachemire. C'est leur vie, leur quotidien qui vous ont inspiré aussi, j'imagine.
Yes, I mean that's one of the people I quote
oui,
before the beginning.
Une des personnes que je cite avant le début du chapitre.
As the book moves into Kashmir.
Au moment où le livre se déplace au Cachemire, c'est James Baldwin. Il dit, on ne voulait pas me croire précisément parce qu'on savait que ce que je disais était vrai. Parfois dans le monde, les gens essaient d'opposer la fiction et les faits.
But I say fiction is true.
Mais moi, je dis que la fiction, c'est vrai, c'est la vérité.
Everything that is written comes
tout ce qui est écrit
in a literary imagination
est construit à travers un imaginaire littéraire
grains of what is recognizable
qui se construit autour de graines de vérité reconnaissables.
You could not write this book.
On ne peut pas écrire ce livre en se contentant d'imaginer
the violence,
that la violence. Would make it false, ça le rendrait erroné. Mais la véritable imagination, c'est différent de juste donner des listes de violations des droits humains ou de preuves. Parce qu'une partie de la cruauté de ce qui se passe là-bas, le massacre du Gujarat, par exemple, la moitié des responsables ne peuvent pas être jugés parce que les corps ont été détruits, parce que la police est impliquée. Donc, en fait, il ne s'agit pas de faire un compte-rendu journalistique. Il s'agit d'essayer d'en parler d'une façon qui aspire à une vérité plus profonde qu'un simple compte-rendu. Et c'est ce que la littérature peut faire. Say goodbye and say hello. Wait your turn, sit up proud, go to bed now, sweet dream. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur Radio France Internationale en compagnie aujourd'hui de la grande romancière indienne Arundhati Roy, avec qui nous parlons de ce nouveau roman, Le Ministère du Bonheur Suprême, qui vient de paraître en français aux éditions Gallimard. Un livre que l'on attendait depuis longtemps et c'est une sorte de livre monde où la romancière nous raconte New Delhi et l'Inde de façon générale ces 20 dernières années, comment la société a évolué. Alors, j'aimerais reprendre une citation de votre livre, Arundhati Roy, où votre personnage, Tilo, écrit un poème. Et voici ce qu'elle dit. « Comment écrire une histoire brisée? En devenant peu à peu tout le monde? Non, en devenant peu à peu tout. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce travail où on devient tout? Est-ce que c'est comme une éponge qui absorbe le monde?
Yes, I think so. I mean, I think one of the things that not many people notice.
Je crois qu'une chose que beaucoup de gens n'ont pas remarqué dans le ministère du bonheur suprême, c'est que ce n'est pas qu'une histoire d'êtres humains. C'est plein aussi d'animaux, d'arbres, de fleurs.
How even in a I mean, of course, in places like Kashmir.
Bien sûr, dans des endroits comme le Cachemire, qui sont des paysages paradisiaques magnifiques, mais même à Delhi.
Eventually, when Anjum moves into the graveyard,
quand Anjum finit par s'installer au cimetière et c'est un refuge aussi pour les animaux, en fait, pour les plantes, pour les phénomènes étranges, pour les créatures brisées.
It's like a Noah's Ark, you know.
C'est un peu comme une arche de Noé. Pour moi, ces 20 dernières années, en voyageant, en écrivant ce que j'ai écrit, je ne considère pas comme complet une politique qui ne considère que les êtres humains. Je suis toujours très triste. Quand je lis les comptes rendus de ce qui se passe en Afghanistan sur le nombre de personnes qui ont été tuées simplement sans prendre en compte les terres qui ont été empoisonnées, les paysages qui ont été incendiés, les insectes qui ont été détruits, je ne peux pas me contenter en fait de regarder les choses du point de vue des êtres humains.
Et j'ai l'impression que cette vision totale du monde devient aussi une vision totale de la littérature. Par exemple, l'inventivité de votre langue. Vous tordez le cou aux mots. Par exemple, vous avez féminisé le mot bébé, certainement, puisque en français, il est masculin et votre traductrice a écrit une bébé et eux, comme pour bien insister que c'était une petite fille. Cela vient de vous à l'origine. C'est vous qui avez fait ce néologisme, Arundhati Roy?
You know, the thing is that one of the other great experiments.
En fait,
in this book is
une des autres expériences fantastiques dans ce livre, c'est comment essayer, quand on écrit un livre, même si on l'écrit dans une seule langue, comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un livre dans plein de langues différentes?
In India,
en Inde,
we on a minute-to-minute basis are slipping.
Au quotidien, on n'arrête pas de passer d'une langue à l'autre.
So, in the ministry, à chaque instant.
Dans le ministère du bonheur suprême, il y a du cachemiri, de l'ourdou, du malayalam, de l'arabe, de l'hindi, du telugu, Il y a tellement de langues. On est tout le temps en fait en train de s'auto-traduire. C'est une sorte de danse d'une langue à l'autre, entre les langues. Si on regarde ça comme si c'était un étang, à la surface c'est de l'anglais, mais quand on regarde juste en dessous, on voit les poissons de toutes ces autres langues en fait, qui glissent juste sous la surface. Donc il y a beaucoup d'inventions en fait, y compris dans notre quotidien. Par exemple, si je sais quelque chose en ourdou et que j'essaie de faire en sorte que l'anglais puisse le dire, j'essaie de transformer l'anglais. Donc oui, il y a beaucoup d'inventions là-dedans.
Et parmi cette liberté, par exemple, féminiser la langue, même si les mots n'existent pas encore, ils deviennent féminins sous votre plume.
I don't know French.
En fait, je ne connais pas le français.
Right in the beginning of the book,
au tout début du livre,
Aftab is born,
quand Aftab est né,
his mother, Jahara
sa Begum, mère,
you know, unlike English, which in English, of course, baby
au contraire de l'anglais, en anglais, le terme bébé est neutre, mais en ourdou et en hindi, il ne l'est pas. Donc, on dirait bacha ou bachi, suivant que c'est un garçon ou une fille. Mais quand Anjum naît et que sa mère pense d'abord que c'est un garçon, puis réalise que son fils est en réalité hermaphrodite. C'est une femme qui parle ourdou. Et tous les objets vivants ou non ont un genre en ourdou. Tout, en fait, sauf son bébé. Donc comment vivre en dehors de la langue ? Elle a créé quelque chose qui est en dehors de la langue, au-delà de la langue.
It's really about how do you And while I was
donc c'est vraiment ça la question, comment faire. Et quand je travaillais avec les traducteurs ourdou et hindi de ce livre, on a eu en fait un échange constant, permanent, sur différents faits. Par exemple, dans le livre, je suis très précise sur les oiseaux, les noms des insectes, des fleurs, et il n'y a pas de nom pour ces détails dans ces langues-là. Donc comment essayer de fonctionner avec tout ça, c'est très intéressant.
Est-ce que pour vous, Arundhati Roy, la fiction est un mode de protestation également?
Je
crois que mon existence même est une forme de protestation. Probablement la fiction que j'écris n'est pas que ça, c'est aussi une façon de célébrer, c'est beaucoup de choses à la fois. Je trouve toujours difficile et je n'ai pas envie de réduire la fiction à une seule chose, quelle qu'elle soit. Mais c'est une autre façon de regarder le monde, en construisant un univers sur la page.
Même si vous risquez d'être arrêté, parce qu'à la fin, vous remerciez les personnes qui, je cite, vous ont maintenu hors de prison jusqu'ici. Ça veut dire que vous êtes en danger en Inde, Arundhati Roy?
À
ce moment-là, j'étais en procès pour mépris de la cour et j'encourais une sanction de peine de prison parce que j'avais écrit un papier sur un ami à moi qui est handicapé et qui est en prison pour la vie après avoir été accusé d'être maoïste. J'hésite toujours quand on me demande si moi je suis menacée, parce qu'en fait il y a des milliers de gens qui sont emprisonnés en Inde pour des accusations qu'ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas de quoi on les accuse. Avec moi, c'est toujours un peu une sorte de danse. En fait, s'ils m'arrêtaient, ça créerait... Ça ferait quand même la une des journaux. Donc, les enjeux, en fait, sont de plus en plus élevés. Mais j'étais inquiète, très inquiète quand ce livre est sorti, mais jusqu'à présent, en tout cas, les choses se sont passées très tranquillement en Inde.
Tant mieux. Merci beaucoup, Arundhati Roy, de nous avoir longuement parlé de ce nouveau roman qui paraît en français sous le titre Le ministère du bonheur suprême aux éditions Gallimard, dans une traduction d'Irène Marguit. Et merci beaucoup, à Marguerite Capelle qui a traduit vos propos tout au long de cet entretien. Merci encore.
Merci.